Donc, bonjour à tous et toutes. Bienvenue au Weplash Festival pour certains, et puis d'autres ont peut-être vu d'autres conférences avant. Et vous savez sans doute que cette année, le thème du festival est jouable. Et dans cette perspective, il y a une exposition qui est montrée à l'accueil, et il y a donc toute une série de conférences et d'expérimentations qui se déroulent pour la plupart dans cette salle, mais aussi en grande salle à côté. Et toujours par rapport à ce thème, donc David Guez, qui est artiste, va nous présenter son projet Dotred, qui est un jeu en ligne à but social et humanitaire. Bon, donc David, je te laisse la parole.
Bonjour, merci d'être ici. Donc effectivement, j'aimerais vous parler d'un projet qui est présenté ici sous une forme d'installation au niveau de la pièce en un logement précaire en briques de Lego, je ne sais pas si vous avez vu en passant, dans laquelle on a installé un bureau où vous pouvez effectivement circuler sur le site et acheter des cubes. Alors je vais déjà un peu venir sur le principe de ce projet. Voilà, d'accord. L'idée, c'était de travailler sur différentes problématiques. Déjà sur la problématique du jeu, puisque c'est aussi le thème du festival. Donc je suis parti sur une problématique des jeux sérieux qui sont en train de se développer de plus en plus en ce moment sur le réseau, mais pas seulement. Alors c'est quoi un jeu sérieux en gros? C'est l'idée que c'est un jeu qui sert à faire passer des messages, alors qui peuvent être pédagogiques, politiques, humanitaires, qui ont, disons, un usage un peu différent du jeu classique, qu'il soit jeu de guerre ou pas, enfin voilà. Donc il y a une fonction au jeu sérieux qui est au moins pédagogique, disons. C'est ce qu'on appelle en anglais les serious games, et il y a un site, dans la diapositive suivante, je vous montrerai, il y a un site en français qui liste un peu tous ces nouveaux jeux. Donc c'est une tendance qui existe depuis un an, deux ans, et surtout qui vient des États-Unis, mais qui est en train d'arriver en France, et voilà. Donc l'idée, c'était de faire un jeu sérieux, alors en réseau aussi, puisque moi, mon travail se développe sur Internet depuis pas mal d'années, et dans un esprit communautaire. Alors, donc le deuxième principe, c'est l'esprit communautaire, c'est de dire que aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle tendance qui est ce qu'on appelle le Web 2, qu'on ne sait pas très bien définir, mais en gros quand même qui émerge depuis quelques années et qui voit surtout des sites comme Google, Yahoo, Facebook, MySpace, etc., etc. Des sites en gros qui agrègent cette idée de réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui sont plus en fait non pas des réseaux sociaux sociaux au sens de la société, mais plus des réseaux de connexion à des buts un peu différents. Alors ça peut être des réseaux d'amis, ça peut être pour le travail, ça peut être pour la rencontre, etc., etc. Donc des réseaux qui sont généralistes, comme Facebook, MySpace étant un peu moins généraliste puisqu'il est quand même un peu dédié à la musique et aux artistes. Mais le phénomène le plus flagrant depuis un an, disons, c'est Facebook, qui est en train effectivement de prendre une place sur Internet non négligeable, puisque, pour vous donner juste un chiffre, en septembre 2007, il y avait 10 000 adhérents en France, et en janvier 2008, il y en avait 1 million. Donc c'est un réseau généraliste, un réseau social généraliste. Alors, avec quand même l'objectif derrière, c'est quand même une très grosse société qui gère ça, qui est en train de se mettre en concurrence avec Google. Donc si vous voulez, le Web 2 est quand même représenté d'un point de vue général par des grosses sociétés qui ont une force marketing énorme et qui génèrent leurs profits par la publicité. Donc le modèle est plutôt assez simple, c'est le modèle de Google, c'est-à-dire en gros, on a une gratuité de service. Effectivement, je peux créer mon compte Facebook, je peux utiliser mon compte Gmail, en échange d'une publicité qui s'affiche sur le site, et mais une publicité assez fine, une publicité qui effectivement fait du profiling, c'est-à-dire qu'en gros, elle analyse le contenu que nous, utilisateurs, mettons sur le réseau. Et c'est aussi une grosse tendance du Web 2, ça, c'est de dire que c'est l'utilisateur qui crée le contenu. Et le modèle, en gros, il est simple, hein, c'est on vous donne un accès gratuit à un compte qui permet de faire des choses, on espionne votre contenu, on affiche les pubs qui correspondent et les grosses sociétés touchent l'argent de ce contenu en fait. Voilà. Donc l'idée c'était donc de dire le Web 2 ce n'est pas que ça. Et ce qu'on a envie de mettre en place sur le réseau, c'est un Web 2 plus communautaire, plus associatif et plus à but non lucratif. Parce que dans la vie réelle, le domaine associatif existe, il est assez puissant, il permet de faire des choses, il permet de faire de la politique, de faire évoluer des idées. Et sur le net, il existe très peu. Alors, il existe effectivement sur des projets comme Wikipédia ou sur des projets comme Linux, mais il reste quand même extrêmement minoritaire. Et c'était une constatation de dire, mais pourquoi sur le réseau qui est, sur le principe, le réseau Internet, le World Wide Web, le web, qui existe déjà depuis presque 20 ans, pourquoi ce n'est pas ce modèle émergent qui aujourd'hui émergent de la communauté. Le World Wide Web, au départ, c'est de dire, on crée sa homepage, on la partage avec d'autres, on échange du contenu. Et si vous voulez, depuis quelques années, ce Web 2 marchand a pris un pouvoir tellement puissant que, en gros, pour à peine exagérer, on n'aurait que des TF1 en ligne, en fait. Voilà. Donc moi, bon, en tout cas, puisque je suis un artiste sur le réseau qui est assez activiste dans le sens où j'essaie de réfléchir à des solutions alternatives aux solutions marchandes, de dire aussi là, sur le jeu, en utilisant le jeu sérieux, comment je peux faire des passages communautaire en fait. Avec une troisième idée, c'était de dire que ces passages peuvent se faire vers le réel aussi. Comme je vous le disais, tous ces jeux ont souvent des buts pédagogiques seulement, mais ils n'ont pas un but, si vous voulez, économique ou politique. Ils s'arrêtent à des règles qui sont finies dans le jeu. Donc là, c'était aussi d'initier quelque chose, je ne sais pas si c'est un peu nouveau, mais en tout cas c'est plutôt assez excitant, c'était de se dire, je joue à un jeu sur le réseau, un jeu grand public, un jeu qui a des règles assez simples, d'ailleurs vous verrez, mais je peux intervenir pour faire changer les choses dans la réalité. Donc on est parti sur un principe assez simple, c'était de dire, puisque ce qui émerge aussi du Web 2 et des applications sur Internet en ce moment, c'est le système de cartographie, c'est la fameuse Google Map. C'est aussi dans le réel, si vous voulez, le GPS, qui est une utilisation de plus en plus utilisée par les téléphones portables. Et voilà, enfin bon. Donc c'était de dire, le territoire, la carte, c'est quelque chose que tout le monde comprend, c'est quelque chose que tout le monde a en lui-même, c'est la maison, c'est son territoire, c'est vrai que c'est assez tribal. Mais c'était intéressant de faire ce passage entre un monde virtuel où la notion de cartographie de territoire, elle est la homepage, ce qu'on appelle la homepage, hein, c'est la page chez soi, et le vrai chez soi. Donc ce passage entre le virtuel et le réel, c'était intéressant aussi de le faire sur la notion de territoire. Donc là, je reprends sur cette, un peu ce que je viens de vous dire. Donc on est parti sur un jeu à but humanitaire, caritatif, environnemental, où se jouent les questions de territoire. Donc on est parti sur l'idée du logement social aussi, puisque c'est une problématique très importante et liée au territoire, puisque comme vous le savez tous, enfin en ce moment, depuis quelques années, il y a une frénésie sur l'immobilier et de moins en moins de gens peuvent se loger. Donc l'idée, c'est de faire un jeu utile, un nouvel usage du web, un jeu utile qui permette d'aider des associations de terrain qui travaillent depuis des années, qui sont actives, faire un passage en fait, faire un outil de passage entre un monde ludique mais aussi pédagogique, puisqu'il va faire entrer ces notions sur le réseau vers ces associations qui bossent sur le terrain. Là, je vous ai mis le lien vers le site jeuxserieux.fr qui liste un peu toute cette nouvelle tendance de jeu. Donc en fait est né le projet Dotred. Alors Dotred, ça veut dire point rouge, si on le traduit simplement. Mais c'est aussi, en fait pour moi c'était l'idée, parce qu'on m'a souvent posé la question, pourquoi Dotred, est-ce que c'est un projet politique au sens rouge? En fait c'est tout simplement la question de la veille, rester en veille. Et en fait si on devait imaginer un logo, pour moi c'est les appareils électroniques, c'est la lumière rouge des appareils électroniques qui reste tout le temps allumé à la maison, que ce soit sur le poste de télé ou que ce soit sur n'importe où. N'importe quel appareil électronique a toujours ce point rouge lumineux. Donc c'était un peu de dire, si les gens gardent ça en tête, quand ils seront chez eux aussi, ils verront ce point rouge et peut-être ça leur rappellera d'autres aides. Voilà. Voilà. Donc pour la première mission du jeu, puisque le jeu en gros c'est de dire on va racheter la ville de Paris pour la première mission. Donc on a travaillé avec l'équipe de Regard.net et du Web Flash Festival et du Centre Pompidou sur un jeu donc en flash, qui est voilà, une technologie qui commence à accepter la 3D, sur le principe tout simplement de dire, ben voilà, on va associer une Google Map avec une carte en 3D de Paris simplifiée et on va proposer aux gens de racheter Paris. Alors c'est vrai que ça fait un peu tape à l'œil comme ça. Mais il fallait rester simple parce que le projet au départ était beaucoup plus ambitieux. Je vous distribuerai un petit livre, j'en parlerai après, mais le projet au départ était beaucoup plus ambitieux. Mais en tout cas, on l'a réduit au maximum pour en faire une application relativement grand public, pour être efficace en termes de rentrée d'argent pour les redistribuer justement à ces associations humanitaires. Donc le principe, on est sur une carte de Paris, on crée un compte. Et on achète des parcelles de 100 mètres carrés. Alors on a fait un calcul qu'il fallait effectivement 1 million de parcelles de 100 mètres carrés pour acheter tout Paris. Alors on a mis un prix un peu symbolique parce que vraiment l'idée c'est de partir sur une notion très grand public. Pour 2 euros, on peut racheter 100 mètres carrés à Paris. Et voilà, l'idée donc c'est avoir au final 2 millions d'euros qui sont redistribués à des associations humanitaires. Donc j'irai sur l'application tout à l'heure. Là, je vous passe un peu les écrans. Donc on crée un compte, on choisit son cube. Vous voyez, donc en largeur, profondeur, il y a le prix qui s'affiche. Donc on peut commencer à 2 euros si c'est 1 sur 1. 1 sur 1, c'est 100 mètres carrés. Et j'arrive à un certain prix. Une fois que j'ai acheté mon cube, je peux le placer dans la ville. Donc vous voyez, je me promène dans la Google Map. Je peux zoomer puisque c'est vraiment le principe de la Google Map. Et je dis, je vais peut-être, par exemple, acheter l'île de la Cité ou une partie de l'île de la Cité. Je me place, je valide. Et j'ai sur la carte en 3D un cube qui apparaît que je peux personnaliser. Alors ce cube, je peux lui mettre une photo sur le toit. Et là, ça rappelle un peu un projet que je ne sais pas si vous avez entendu parler, le One Million Dollar Project, qui était un projet uniquement marketing et viral, mais qui a été très efficace à son époque, puisque la personne qui avait fait ça avait simplement vendu des pixels d'un écran d'une certaine taille, et elle vendait des pixels et toutes les entreprises, tous les particuliers achetaient des pixels pour mettre juste leur logo en fait. Et c'était la home page à 1 million de dollars, et ce projet a marché puisque effectivement l'heureux étudiant qui a lancé ça, ah oui, alors il justifiait ça quand même en disant que c'était pour payer ses études, je crois, mais il a effectivement eu 1 million d'euros. Voilà. Alors moi je suis un peu plus con, moi je vais effectivement, il y a 1 million d'euros, mais c'est pas pour moi. Voilà. Donc l'idée là, c'est qu'une fois qu'on a placé son cube, on peut rentrer dedans, on peut faire des choses. Et c'est un cube en 3D. Alors pour l'instant on peut pas faire grand chose, puisque là on lance la première version. Mais au moins un des intérêts du jeu, c'est que ce cube a une certaine taille en largeur, et on va pouvoir l'augmenter en hauteur tel un gratte-ciel en devenant parrain du jeu. Donc un des buts du jeu, c'est de faire du prosélytisme pour le jeu, c'est-à-dire d'agréger le plus de monde possible. En gros, c'est dire à ses amis, venez acheter des cubes vous aussi, venez racheter Paris, et plus j'ai d'amis qui vont acheter des cubes grâce à moi, plus mon cube à moi va grandir en hauteur, tel un gratte-ciel. Donc on est parti sur cette idée assez simple, mais c'est quand même une question de visibilité, puisque plus son cube est haut, plus il est visible aussi dans la ville. Je vous ferai une démo en direct à peu près après. Donc on a voulu utiliser toutes ces notions de viralité du Web 2, puisque Facebook fonctionne comme ça. Hein. Je mets mes amis, et mes amis mettent leurs amis, et on crée des grands groupes comme ça. Mais là, à des fins justement plus utilitaires, puisque le jeu au final sert à ça. Voilà, avec une dernière notion, donc j'ai des missions. La première mission, c'est de racheter Paris, mais on a pensé le jeu pour ajouter des cartes. Et l'idée, c'est de commencer par Paris, puisqu'on habite Paris, mais c'est ensuite de décliner la proposition sur d'autres villes, dans d'autres pays. Donc là, on commence à avoir des partenariats avec. Là, il y a Sao Paulo. On a fait une proposition pour racheter Sao Paulo, pour aider que les favelas ne puissent pas être rachetées par les promoteurs immobiliers qui veulent racheter les favelas pour en faire des buildings. Donc, si vous voulez, à chaque fois, il y a une possibilité avec Montréal aussi. Là, on va plus travailler sur l'environnement à Montréal. Donc, à chaque fois, on essaie de trouver pour chaque ville une problématique, qu'elle soit sociale, humanitaire, environnementale, éducative aussi. Des partenaires, des associations, des structures publiques, des structures privées. Et voilà, l'idée, c'est de finir par faire toute la carte du monde. Et puis ensuite d'aller sur la Lune se reposer, parce que voilà. Alors, ce projet, comme je vous le disais, c'est un projet issu du web communautaire, puisque moi je défends le web communautaire depuis 1995. Donc il a fallu trouver, ce qui est intéressant aussi dans le montage de ce projet, c'est toute la structure derrière qui a été générée, puisque c'est quand même un projet où il y a de l'argent qui circule. Donc voilà, le but ça a été de dire, il faut faire une chaîne complète, de la création du jeu jusqu'à la redistribution aux associations humanitaires. Donc il y a une structure qui a été créée, associative, donc à but non lucratif, qui est intermédiaire entre les associations humanitaires et les joueurs qui, eux, vont acheter des cubes, se promener dans leurs cubes, passer de cube en cube et continuer le jeu de cette façon. Donc, pour tout vous avouer, c'est un projet assez compliqué parce que j'ai dû persuader des associations humanitaires. C'est pas simple. Quand on n'est pas connu, quand on n'est pas du milieu, il faut aussi. Il y a une question d'image, il y a une question. Enfin, voilà. Les associations humanitaires, elles sont soit militantes, soit elles travaillent sur le terrain, soit elles sont un peu affiliées à des positions politiques aussi. Donc on touche quand même des choses du réel, de la société civile, des choses assez sensibles. Donc c'est pas simple d'arriver l'artiste, le rigolo qui fait un jeu. En plus, quand on parle de jeu, souvent c'est toujours lié à des choses plutôt soit de guerre, soit drôle. Enfin, il y a quand même ces notions de ludique, de comique, de. Enfin, le jeu sérieux n'est pas encore tellement implanté en France, donc c'est pas quelque chose qu'on connaît tellement, c'est pas tellement dans la culture. Quoi. Donc il a fallu aller voir les associations, négocier avec elles, signer des conventions. On est en train de le faire, on est en train de créer une convention pour aussi qu'il y ait un retour sur les fonds qui sont utilisés, pour qu'il y ait un retour pédagogique aussi, c'est-à-dire qu'effectivement c'est bien beau de jouer, c'est bien beau d'essayer de comprendre comment. Le virtuel permet le réel, etc. Mais il faut qu'en retour, le réel affiche aussi ce qui se passe. Et je crois que tout le monde est d'accord, en tout cas, dans ce triptyque un peu, de dire qu'il y a une fonction pédagogique qui est importante aussi. C'est intéressant, j'ai eu beaucoup de discussions avec différents partenaires associatifs. Et il y a un problème aussi de renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a des associations comme les enfants de Don Quichotte qui ont émergé l'année dernière, qui sont assez jeunes, mais des associations comme Emmaüs, Fondation Abbé Pierre, Habitat Humanisme, qui est une grosse association aussi, qui n'est pas tellement connue du grand public, mais qui fait un travail très actif en région et sur toute la France, ils ont aussi ce besoin de renouvellement de tranches d'âge. Quoi. C'est-à-dire que c'est quoi être militant humanitaire aujourd'hui? C'est quoi... voilà, toutes ces notions-là sont en train de changer aussi, et le virtuel, le web doit amener sa part de nouveautés, de façons d'agir différentes et de façons d'aller chercher les gens et de les éduquer entre guillemets, hein, ça c'est pas une obligation, mais en tout cas de voilà. Et je pense que l'artiste sur le web qui est dans un domaine activiste a aussi ce rôle de faire ces passages-là. Ils se feront, mais peut-être dans plus longtemps, et voilà, c'est intéressant de mêler les deux. Quoi. Donc là, voilà, le projet, en tout cas, c'est surtout ce jeu, mais autour de ce jeu, on a voulu aller un peu plus loin aussi, donc j'ai proposé à plusieurs acteurs du monde artistique, du monde universitaire, des journalistes, des artistes, de faire un texte, ou de faire une participation autour d'un livret qui est sorti ici, donc je vous le distribuerai, ou qui explique un peu tout ce que je viens de vous dire. Et il y a effectivement cette exposition qui est donc ici, qui va durer le temps du festival, donc juste 2 jours, mais l'idée c'est de la décliner aussi ailleurs, autrement, etc. Donc là, Concernant les partenariats, où on en est pour l'instant, l'idée c'est que le jeu se lance aujourd'hui. On reste ouvert à des nouveaux partenaires associatifs, mais pour l'instant on en a quelques-uns quand même et pas les plus petits et les moins importants. On a donc les enfants de Don Quichotte qui ont effectivement été les premiers à réagir assez vite, puisque c'est vrai qu'eux ils sont assez sur ces notions de médias, ils ont compris assez vite l'enjeu. Donc voilà, donc il y a eux, il y a Habitat Humanisme qui est une association plus de terrain qui reloge des gens vraiment, qui est une action très importante. Il y a toute une documentation avec des flyers qui sont près de l'installation. Je vous conseille de les prendre parce que c'est vraiment intéressant. C'est une association qui n'est pas très connue du grand public, mais qui a un vrai travail de fond. Le DAL, qui est plutôt connu, qui a une action aussi politique, militante. Et Jeudi Noir et Macaque, qui sont aussi des associations assez jeunes et qui sont un peu sur ces fonctions aussi médiatiques, artistiques, où elles vont perturber le système pour essayer de le changer, en tout cas, ou pour faire réagir les politiques et essayer de changer les choses. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là? Et puis ensuite, je dirai les perspectives un peu du projet. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà, sur cette présentation-là, des questions. C'est assez clair.
D'un point de vue technique, au niveau de l'hébergement des données, et des données notamment personnelles qu'on va pouvoir mettre dans son cube, comment ça se passe et où c'est stocké?
Alors, pour l'instant, c'est plutôt assez classique. C'est vrai que quand on crée un compte, il y a les conditions générales aussi du site qui disent clairement qu'on ne va pas utiliser les données à des fins commerciales, etc. etc. Après, c'est des choses assez classiques, c'est des tables SQL, PHP SQL. Donc, les données sont stockées sur un serveur. En l'occurrence, pour l'instant, le serveur de regard.net qui est la structure d'hébergement du projet. L'idée à la suite, c'est d'avoir son propre serveur avec un administrateur système. Bon, de toute façon, c'est classique.
Enfin, Nicolas, je vais te rajouter une chose, parce que j'ai développé le projet avec David. D'un point de vue des données, il n'y a pas de données sensibles. Les utilisateurs ne sont pas obligés de donner leur vrai nom, leur adresse, leur téléphone. On leur propose. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Donc tu peux très bien utiliser un pseudo. Par contre, il faut un mail valide, effectivement, pour pouvoir payer, éventuellement une carte bleue ou un compte PayPal aussi.
Et effectivement, le paiement, pour l'instant, c'est PayPal qui accepte le paiement par carte bleue sans compte PayPal. Donc eux, effectivement, c'est quand même une grosse structure qui a des sécurités. Bon. On ne pourra pas faire mieux qu'eux, quoi, je pense. Voilà. Alors ensuite, la suite du projet, puisque c'est un projet, c'est la première version, c'est effectivement traduire le site dans plusieurs langues, c'est développer de nouveaux modules à l'intérieur d'un cube, c'est renforcer le caractère ludique et pédagogique, puisqu'il y avait cette idée de retour pédagogique sur les actions menées, c'est de trouver des nouveaux partenaires pour d'autres villes, pour d'autres pays. C'est aussi stabiliser le modèle économique de l'association, puisque là c'est à but non lucratif, mais elle a quand même besoin de fonds pour se développer, pour faire de la recherche, etc., etc. Donc c'est vrai que sur les 100%, sur les cubes achetés, il y a 80% qui vont aux associations humanitaires et il y a 20% qui restent en auto-financement, mais c'est pas assez, donc il faut aussi trouver des subventions, etc., etc. Et c'est surtout, puisque moi j'aime beaucoup cette idée du modèle communautaire, c'est réfléchir sous forme de réunions de type barcamp. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les barcamps. C'est des réunions un peu, ça pourrait être ici, mais c'est des discussions avec le public sur les améliorations à apporter au projet. C'est trouver éventuellement des partenaires, des gens voilà, qui peuvent programmer, qui peuvent aider à développer la structure. C'est un truc en commun, en fait. C'est un truc en commun pour développer le projet. Voilà, alors ça, j'ai fini. Je peux essayer d'aller dans le jeu directement, si je le retrouve. Voilà, donc là, on est dans l'interface d'accueil. Donc il y a un menu classique, partenaire, l'équipe. Je remercie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé bénévolement sur ce jeu, sur ce projet. Donc certains sont dans la salle, autant sur le livre, autant sur l'application, autant sur l'aide juridique autour, sur l'aide de traduction en anglais, etc. etc. Donc j'aurais jamais pu le faire tout seul, ce projet. Voilà. Là, il y a une question-réponse. Il y a les médias où vous trouverez les dossiers de presse. Alors, le livre, je vous le distribue, mais il est aussi ici en PDF. Donc, vous pouvez le. Voilà. Et on a fait une petite version anglaise pour l'instant sur la présentation. Donc, une fois qu'on est dans la présentation, on rentre dans le cube. Et là, on rentre dans l'application. Donc, qui a été développée par Nicolas Gans principalement. Donc, hurrah à Nicolas, parce que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on se promène sur la Google Map, comme ça en 2D, et en 3D en même temps, on se déplace sur la carte. Voilà. Donc il y a un lien direct entre les deux cartes. Il y a aussi un lien de zoom, puisque je peux zoomer précisément sur la Google Map, et en même temps, je zoome dans le jeu. Voilà. Donc à chaque fois que j'achète une parcelle, j'ai un cube qui apparaît sur la carte, et je peux donc entrer dans le cube. Donc, mon cube, c'est mon cube personnel. Quoi. Voilà. Alors, effectivement, il y a une navigation un peu... on est en train de développer l'aspect de l'intérieur du cube qui pourra être personnalisé, on pourra taguer les murs, on pourra ajouter des modules de chat vidéo entre les utilisateurs. Enfin, on va vraiment essayer de faire du cube la base qui permet d'aller vers les autres aussi. Donc, pour l'instant, elle est assez simple. Et l'idée, c'est que si on a plusieurs cartes, on peut passer d'une carte à l'autre par son cube. Et ce dont je vous ai parlé, c'est de dire plus on a d'amis qui achètent grâce à nous, plus notre cube s'élève en hauteur. Mais on aura aussi dans son cube un lien vers tous les amis qui ont des cubes. Donc on pourra passer de cube d'amis en cube d'amis, dans une sorte d'hyper-navigation comme ça. Donc voilà, vous voyez, on a voulu rester sur une interface assez simple qui reprend vraiment cette idée de cartographie. Donc on a bien délimité Paris. Pour l'instant, on ne peut pas créer de cube en dehors de Paris. Ensuite, sur le principe de créer un compte, bon, là, c'est assez classique, je ne vais pas le faire. Mais, bon. Et une fois que j'ai créé un compte, si je me connecte... Voilà, donc je peux acheter un cube. Donc là, je détermine la taille. Alors, effectivement, j'ai le prix qui monte assez vite, hein, parce que c'est un multiple de 2. Bon, de toute façon, je n'ai pas de carte bleue, là. Donc je peux aller loin. Ah ben, je crois qu'on s'est bien amusé, parce qu'on peut acheter tout Paris. Hein. C'est 1000 par 1000, c'est ça? Ah tiens, ben, on va voir combien ça fait, 1000 par 1000. Ça fait combien ? 2 millions d'euros. Ah oui, bah oui, c'est 1000 par 1000, ouais, c'est ça. C'est la... Voilà, donc si vous avez 2 millions d'euros, eh bien, vous faites bugger le jeu, là, je pense. Je ne sais pas trop ce qui se passe. T'as essayé, ça ? Bah, de toute façon, vous savez, l'intérêt d'un truc virtuel, c'est qu'on peut faire la carte de Paris numéro 2... juste en dessous quoi. Moi, s'il y a quelqu'un qui donne 2 millions d'euros pour le projet et que c'est redistribué pour l'aide au logement, et c'est un peu le but quand même. C'est vrai qu'il y a un but ludique, mais il y a quand même un but réel. C'est un peu cette notion qui est nouvelle, c'est-à-dire vraiment ces associations-là, elles n'ont pas beaucoup de moyens, elles travaillent sur le terrain et finalement c'est elles qui font le boulot. Nous, on est des rigolos à côté, donc il y a quand même cette fonction-là qui est la plus importante pour moi. Si quelqu'un donne 2 millions, il n'y a pas de problème quoi pour moi. Pour moi, c'est pas un problème. Oui, oui. Oui. Ouais, tout à fait. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, je vais peut-être pas. Ouais, parce que là, effectivement, on va écraser tout le monde. Bon, j'achète, disons, voilà. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai 12 euros. Ok. Là, je choisis une image. Ah, mais là, il n'y en a peut-être pas d'image, c'est ça ? Je crois qu'on a. C'était pas... Bon, peu importe, il n'y a pas d'image. Ça marche pas les BMP. Hein. Non, je crois pas. Non, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, ça marche sans. Voilà. Et là, vous voyez, on me dit place ton cube où tu veux. Alors, je sais pas. Je vais le placer n'importe où. Hein. Voilà, les Invalides, hop, pas l'armée. Musée d'Orsay, ça va être par là, peu importe. Voilà, musée d'Orsay. Je vais acheter le musée d'Orsay. Voilà, donc je me mets là. Je confirme l'emplacement du cube. Êtes-vous sûr? Blabla, oui. Donc là, Alors là, on paye. Parce que. Voilà, donc là, il me fait un récapitulatif. J'ai 12 euros, etc., etc., payé par PayPal ou par carte bancaire. Et là, une fois qu'on a payé, effectivement, le cube est stabilisé à l'endroit où. Alors, il y a une confirmation par mail, etc. Non, pour le cube, il n'y a pas de confirmation par mail. Ben, il y a la confirmation PayPal, quoi, disons. Ouais. Et le cube apparaît dans la ville et il est stabilisé à ce niveau-là, effectivement. Et la dernière notion donc, qui est assez importante, puisque c'est ça qui va faire que le jeu va se propager, c'est les parrains. Donc là, c'est très simple. Soit on rentre une liste d'emails qui ne sont pas sauvegardés dans les bases du jeu, soit on va sur son compte Facebook, et là, automatiquement, il prend tous les amis, et il vous demande si vous voulez envoyer un message à tous vos amis. Et donc, tous vos amis reçoivent une notification comme quoi vous avez joué sur Dotraid et vous êtes invité par votre parrain, par votre ami, à jouer dans le jeu, en fait. Hein. Donc là, c'est très simple. Hein. Si je mets une adresse email, je peux en mettre plusieurs. Hein. Si vous n'avez pas de compte Facebook, après on va ajouter d'autres formes d'import, de carnet d'adresse, de trucs comme ça. Mais là, pour l'instant, on a trouvé que c'était simple comme ça. Voilà, un email a été envoyé à vos contacts. Lorsque un contact achètera un cube, votre cube augmentera en hauteur. Voilà, donc Et effectivement, je crois que toi, tu as un cube qui est assez haut déjà, hein, c'est ça? Non, non, pas encore. Moi, il y a quelques parts. J'ai été le parrain d'un peu de personnes, mais je sais pas si on le voit trop encore. Ouais, il est plutôt assez haut, mais comme il est grand, tu te rends pas compte, quoi. Mais c'est vrai que dans les tests, on avait fait des tours assez hautes. Voilà. Donc il y a plein de choses à améliorer, parce que voilà, on a quand même travaillé à l'arrache pendant 6 mois sur ce projet. Là, c'est vraiment la première version. Mais.
Ouais. Est-ce qu'il y a un principe de modération sur les images?
Alors, il y a des conditions générales d'utilisation du site, et dans les conditions générales, on dit qu'il ne faut pas. En fait, quand on crée un compte, on valide les conditions générales, comme sur tous les sites. Après, la modération, elle peut être que publique. C'est-à-dire que. Enfin, soit nous, on la voit et. Selon les conditions générales, le cube est éliminé, ou l'image en tout cas est enlevée, on peut au moins faire ça, quoi. Mais après, c'est comme tous les sites, s'il y a beaucoup de monde, ça peut être que, si nous on ne le voit pas, c'est que par modération publique. C'est-à-dire si quelqu'un nous dit, voilà, là il y a une image pédophile, je ne sais pas, voilà, on l'enlève évidemment. Ouais. De toute façon, les conditions générales, c'est un peu celle classique aujourd'hui qui liste toutes les conditions d'abus liées au site web, quoi, en fait. On s'est calé là-dessus, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
C'est juste une petite question technique. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, donc il n'y a pas beaucoup de cubes. Quand tu vas avoir des milliers de personnes qui vont acheter un cube, comment ça va apparaître que là, tu vois, en fait, le cube, ça fait combien de mètres carrés? Comment tu vas représenter le...
Alors,
s'il y a beaucoup de monde qui achète, ça va faire une espèce de.
Sur la carte en 3D, c'est la bonne taille, quoi. C'est-à-dire, sur la carte en 3D, 100 mètres carrés, c'est vraiment 100 mètres carrés. Le petit point là qui doit faire 100 mètres carrés, si je zoome. Voilà, celui-là, je pense qu'il fait 100 mètres carrés. Ah oui, c'est celui que je viens de créer, celui-là. Il y a des cubes plus petits, je crois. Là, par exemple. Là, celui-là. Voilà, Pomme, elle a fait un cube. Elle, son cube, il fait 100 mètres carrés. Quoi. Donc, c'est la vraie taille sur la carte en 3D. Sur la carte en 2D, on n'a pas pu... en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on a mis toujours la même taille de cube. C'est comme ça, ils sont tous visibles au même niveau. Ce qui permet, si un cube est tout petit, au moins, on le voit sur la carte en 2D. Parce que si on aurait mis des valeurs de taille, on ne les aurait pas vues non plus sur la carte en 2D. Alors que là, un cube à 100 mètres carrés ou un cube à 10 000 mètres carrés, il a la même taille sur la carte en 2D. En fait, c'est simple. Hein. Si je recule sur la Google Map, voilà ce qui se passe. Donc si j'ai 1 million de cubes, il va falloir que je zoome beaucoup pour voir tous les petits cubes. Mais sinon, je vais avoir cette forme-là, je l'aurai plus proche, quoi, c'est tout. Hein, c'est ça. Hein. Ouais. Ce qu'on pourra éventuellement faire, c'est mettre un chiffre sur le toit ici, de dire bah, c'est 12, 10, enfin, la taille en mètre carré, ou dans la fenêtre, ça oui. Ça c'est pas dur. Quoi. Ouais, voilà. Ici, on mettra plus d'infos sur chaque cube, en fait, aussi. Hein. Bon, l'intérêt, c'est qu'on hérite de tout ce que peut faire une Google Map aussi, donc ça, c'est plutôt pas mal. Plutôt assez joli. En fait, là, c'est même pas Google Maps, c'est Microsoft Map. Mais voilà, par exemple, si... vous voyez, ça fait... Ça le fait, quand même. Un gros cube sur Paris. Voilà, enfin bon. Donc là, évidemment, on ne le voit plus du tout, du coup. Mais là, par hasard, voilà, ah bah c'est moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment le hasard. Voilà, hop, j'arrive dans mon cube. Non, l'idée, c'est vraiment de s'amuser dans le cube aussi et de faire des choses assez marrantes. On a plein de trucs, on a plein de projets en tête, mais voilà, il faut après du temps, du développement, etc. etc. Mais,
un des trucs qui sur les réseaux, les réseaux genre Habbo Hotel et compagnie, comme commerciaux, marchent très bien, c'est les gens qui, en fait, souvent ne payent pas au début, surtout quand ça cible les adolescents. Mais en fait, après, doivent payer pour acheter des petits cadeaux, rajouter des choses. Donc, est-ce que tu as pensé à, on va dire, rentabiliser les utilisateurs en leur demandant de refaire des dons et qu'en échange, ils ont le droit de, je sais pas, faire quelque chose de plus
C'est une question sur les prochains modules extensions qu'on va faire. Est-ce qu'on leur dit pour 50 centimes, tu peux mettre ta vidéo de chat dans ton cube ? Est-ce que pour... On ne sait pas ça encore.
Ou plutôt l'offrir, en général, c'est plutôt pour quelqu'un d'autre souvent. Les gens achètent un gâteau vu un gâteau pour l'offrir, ou une armure pour offrir à leur meilleur copain, ou pour eux ou pour les autres souvent aussi.
Ouais, absolument. Ouais, après, il y a plein de choses à inventer parce que de toute façon.
Ça fait partie des trucs qui marchent apparemment.
Qui fait que les gens reviennent surtout. Ouais. Bah, on est même prêt à faire de la messagerie comme Facebook le fait. Je veux dire, de toute façon, des modèles propriétaires comme Facebook qui mettent en place des applications qui remplacent le web au final, quasi, quoi. Ils n'ont pas le monopole de ça, donc pourquoi on ne le ferait pas aussi ? Moi, de toute façon, c'est pas une guerre, hein, mais c'est, il faut lutter à technique égale. Après, à moyen, peut-être pas, mais on est capable de faire la même chose. Linux, c'est un modèle associatif, entre guillemets, c'est un modèle en open source, c'est des ingénieurs qui travaillent gratuitement. Après, il y a un modèle économique qui s'est développé, mais au départ, c'était des équipes de bénévoles qui ont développé un système d'exploitation. Qui émerge, qui prend du temps parce qu'il n'y a pas la force marketing et tout, ouais, mais ça la force du réseau, elle est. Je pense que les gens sont pas des moutons à suivre ce qui se passe, mais c'est les usages qu'on met en place aussi, les usages différents qui font que les gens vont aussi vers cette chose-là. Je pense que c'est très très important que ce soit les artistes ou pas. D'ailleurs, peu importe. Hein, moi, ce serait plutôt mieux que ce soit même les assos qui le fassent eux-mêmes, quoi. Mais ou le domaine humanitaire, ou social, etc. Mais quand on voit comment les politiques gèrent le web, elles le gèrent comme un média, c'est tout. Pas plus. Ils font des blogs, ils font des vidéos, des Dailymotion, etc. Il n'y a pas du tout d'implication politique au sens large du web, qu'elle soit chez les politiques, qu'elle soit chez les acteurs sociaux. Mais parce que c'est une question de culture, une question de temps. Il faut, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça va émerger des choses comme ça. Puis ce n'est pas si simple. Moi, en 99, j'avais lancé un portail qui s'appelait Téléweb, qui était des télés libres sur Internet. C'était exactement le Dailymotion, mais pour les télés associatives, pour les particuliers, un module communautaire comme ça. Donc, à l'époque, il était en concurrence avec CanalWeb, qui était un gros machin, start-up, à 200 millions de francs, etc. Mais on faisait la même chose, au fond, et on se retrouvait dans les mêmes conférences à dire, il y a ce modèle-là aussi... Bon, ils se sont cassés la gueule avant moi. Je me suis cassé la gueule plus tard, mais ils se sont cassés la gueule avant moi. Mais voilà, c'est peu importe, quoi. Il faut aussi se battre là-dessus. Enfin, c'est quand même assez important, quoi, en fait. Voilà, c'est fini, c'est ça ? C'est fini. Bah, je vous remercie. Et puis. Si vous voulez le petit livre, il est là. Et sinon, il est près de l'installation aussi. On en avait mis en pile. Voilà.
Voilà, donc merci David pour cette conférence. Juste après, vous avez une performance du collectif Quartier d'Artistes, donc dans cette même salle, dans un quart d'heure. Voilà, une performance Bluetooth. Merci beaucoup.